Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Troisième jour de notre série consacrée à l'économie de la rareté. Après avoir pénétré lundi dans l'univers privilégié du luxe et interrogé hier le concept de rareté au croisement des disciplines, nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'hypothèse de la fin du pétrole. Dès 1956, le géologue Marion King Hubbert annonçait que l'or noir atteindrait son pic de production aux États-Unis au début des années 70. C'était sans compter les forages offshore et l'exploitation du pétrole de schiste grâce à la fracturation hydraulique. Des découvertes qui ont repoussé l'échéance du peak oil et permis de nouveaux records de production à l'échelle mondiale. Alors le pétrole deviendra-t-il un jour une ressource rare ? Et coûtera-t-il toujours plus cher ? Comment se passer des énergies fossiles dans un monde encore dopé aux hydrocarbures ? Voilà les questions essentielles qui vont nous occuper aujourd'hui. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons imaginer l'après-pétrole en compagnie de Mathieu Ozano, directeur du Shift Project, un think tank consacré à la transition énergétique et auteur d'Or Noir, la grande histoire du pétrole, paru aux éditions La Découverte. En compagnie également de Pierre-René Bocquis, ancien directeur stratégie et planification du groupe Total et auteur de cet ouvrage, Le pétrole, quelle réserve, quelle production et à quel prix, publié chez Duno. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho. Mathieu Ozano et Pierre-René Bocquis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais en introduction, c'est au milieu des années 50 que Marion King Hubbert prédit pour la première fois un pic de la production américaine de pétrole. Une prévision qui s'est avérée vraie, au moins en ce qui concerne le pétrole conventionnel, Mathieu Ozano.
Le pétrole conventionnel américain, tout à fait. Il a fait cette production en 56. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait envie de l'écouter. On était en plein essor, notamment au Texas, de la production pétrolière américaine. Et puis, sa prédiction s'est avérée concrètement réalisée en 70. Et jusqu'à l'essor du pétrole de schiste, du shale oil, cette production américaine a connu un lent déclin pendant pratiquement 4 décennies.
Au point que les États-Unis ont perdu leur place de premier producteur mondial en 1974.
Oui, c'est exact. Et puis grâce au pétrole de schiste, aujourd'hui, ils l'ont retrouvé. Mais c'est à travers la problématique américaine, on retrouve la problématique future du monde, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de compenser le déclin du pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique qu'on a largement foré, exploré, dont on a largement foré, exploré les ressources, par d'autres formes d'hydrocarbures dites non conventionnelles, dont le shale oil aujourd'hui est la pointe la plus spectaculaire.
Pierre-René Bocquis, on a plusieurs fois annoncé la fin du pétrole. En l'occurrence, on peut situer le pic du pétrole conventionnel en 2008. Et depuis, il y a eu un certain recul de ce pétrole conventionnel ?
Non, en fait, on est en plateau sur le pétrole conventionnel, je dirais plutôt depuis 2010-12, enfin, c'est pas gênant.
Une stabilité
et ça va durer,
plus qu'un
ça
recul.
Va durer encore quelques années, et puis après, on entrera en déclin net pour le pétrole conventionnel. Et toute la question, comme le disait Mathieu, c'est est-ce que le non conventionnel peut compenser ou même faire mieux que compenser ce déclin ? Voilà. Question.
On produisait 55 millions de barils en 1973 contre 93 millions. Aujourd'hui, ce qu'on voit, Mathieu Ozano, c'est que le monde est plus que jamais dopé au pétrole, alors même qu'on n'a jamais autant parlé de la nécessité de changer de modèle.
Oui, c'est le grand paradoxe qu'il va falloir résoudre. L'économie n'a jamais été aussi accro aux énergies fossiles de manière générale et au pétrole en particulier, qui conserve la pole position, la première place parmi les sources d'énergie qui permettent l'économie mondiale de se mouvoir en son entier. Et au Shift Project, l'association que je dirige, qui tâche de réfléchir à ces questions de transition, on appelle ça la double contrainte carbone. C'est-à-dire qu'il y a deux excellentes raisons de sortir du pétrole et des énergies fossiles en général. Il y a le climat, dont on parle beaucoup, et il y a la finitude de ces ressources fossiles dont on parle beaucoup moins, mais qui constituent des enjeux non moins, à mes yeux, non moins pressants. Pour revenir à ce qu'on disait sur le pétrole conventionnel, ce pétrole liquide classique, c'est les trois quarts de la production mondiale, encore aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à quelques centaines de mètres de la maison de la radio, de l'autre côté de la Seine, explique qu'il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que cette production de pétrole conventionnel fasse autre chose que décliner lentement. Il y a un symptôme absolument décisif de ça, c'est qu'on ne trouve plus de pétrole conventionnel. C'est très contre-intuitif de se dire que, compte tenu des centaines de milliards de dollars qui sont mis chaque année par l'industrie pour chercher et développer la production de pétrole conventionnel, d'une part, compte tenu aussi du degré de sophistication technologique qu'on met dans la recherche du pétrole, on n'a jamais trouvé aussi peu de pétrole conventionnel sur Terre depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins.
D'où les investissements dans le pétrole de schiste. Exactement. Et en l'occurrence, il faut souligner le rôle des États-Unis dans cette hausse de la production mondiale de pétrole. La première économie mondiale produisait 7 millions de barils par jour en 2008, contre près de 12 millions aujourd'hui. Pierre-René Bocquis, pardon, il y a eu une véritable explosion de la production aux États-Unis.
Et c'est entièrement dû au pétrole dit de schiste, au shale oil, dont personne n'avait vu venir l'exploitation économique. Tout était là. Tout le monde savait, il y a 50 ans, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pétrole qui était resté dans ces roches dites shale.
Mais jusqu'ici, c'était trop cher de l'exploiter.
Voilà, on pensait que ça ne serait jamais économique. Et ça, ça a été une très grosse erreur, puisqu'on voit que c'est un développement extraordinairement rapide aux US, pour l'instant limité aux USA.
Et donc c'est lié aussi à la hausse des prix du pétrole depuis 2008. Est-ce qui a permis d'exploiter des gisements qui jusqu'ici étaient trop coûteux à exploiter?
Alors il est certain que la hausse continue jusqu'à l'été 2014, à partir de 2005 à 2014, a évidemment favorisé les petits entrepreneurs, parce que c'était pas les grands pétroliers, c'était des petits entrepreneurs, à mettre au point, à baisser les coûts par des technologies nouvelles. Voilà.
Il y a une conjonction, un alignement des planètes très favorable aux pétroliers américains qui ont réussi cet exploit complètement inattendu de développer ces ressources de shale oil. Il y a d'une part la cherté des barils, du prix du baril après la crise des subprimes. On est resté, il faut s'en rappeler, à plus de $100 le baril pendant 4-5 ans, ce qui a permis quand même de lancer de nouveaux projets. Et puis, l'autre aspect de cette conjonction, c'est les taux à nouveau lié à la crise des subprimes, c'est les taux d'intérêt qui étaient et qui restent extrêmement bas, ce qui fait que ces pionniers du shale oil ont pu se financer très largement. Et il y a un état de fait qui reste problématique pour l'avenir de ce boom du shale oil aux États-Unis et peut-être demain ailleurs, c'est que pour l'instant, les trois quarts des opérateurs spécialistes du pétrole de schiste et du shale oil perdent de l'argent. C'est-à-dire que leurs investissements sont supérieurs à ce qui rentre comme chiffre d'affaires. Ça peut changer, ça va pouvoir probablement changer avec l'arrivée des grandes compagnies, des majors qui sont en train d'arriver en force. Mais compte tenu du fait qu'on attend beaucoup de ce shale oil, précisément pour compenser le déclin du pétrole conventionnel, il y a demeure encore à date aujourd'hui de grandes incertitudes sur la capacité de ce shale oil à remplir la baignoire qui se vide de l'autre côté par le déclin du pétrole conventionnel.
C'est lié au fait que les puits de pétrole de schiste s'épuisent trop vite, Mathieu Zanot notamment.
Alors c'est lié à beaucoup de choses. C'est vrai que c'est plus par rapport au pétrole conventionnel classique, en tout cas par rapport à l'âge d'or du pétrole conventionnel classique, où grosso modo, on parle de l'or noir, c'est pas un vain mot. D'ailleurs, c'est Pierre-René qui un jour m'a mis le doigt dessus. Le pétrole classique, pourquoi est-ce qu'il a eu autant d'importance pour générer des profits et pourquoi ça reste la plus grosse industrie mondiale de très loin? C'est parce que le pétrole conventionnel, on fait un trou. Et avec un peu de chance, on est assis sur une source de profit pour des décennies. C'est-à-dire que, en termes économiques, on dit que les investissements marginaux sont très faibles.
Dans le cas du shale oil, il y a un investissement.
Oui. Alors, et avec le shale oil, on se retrouve avec le pétrole de schiste, on se retrouve avec une situation qui est beaucoup plus normale pour les industries extractives. Une mine de charbon, vous arrêtez de renouveler le matériel, vous arrêtez de payer les ouvriers, la production s'arrête. Eh ben, le shale oil, c'est pareil. Et ce qui change beaucoup de choses par rapport à la logique du pétrole conventionnel, qui avait cette propriété miraculeuse de faire que le pétrole remontait de sa propre pression et que, comme on dit en économie, on avait des investissements marginaux très faibles.
En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, Mathieu Zeno, c'est que les États-Unis ne sont pas les seuls à investir dans ce pétrole non conventionnel.
Le premier puits a été foré l'année dernière en coopération avec la compagnie Schlumberger. Et grâce à cela, des quantités d'huile légère ont été produites dans ce champ que nous avons appelé le bassin de Khalil al-Bahrein qui est devant vous sur la carte. Les quantités initiales ont été déterminées à plus de 80 milliards de barils.
Voilà, le ministre du pétrole du Bahreïn, le cher Al-Khalifa, annonçant en avril 2018 la découverte de ce qui pourrait être le plus grand champ de pétrole au monde. C'est une découverte exceptionnelle, selon vous, Pierre-René Bokis?
Ma réponse, je dirais plutôt non. Les politiques s'emparent en général du sujet des réserves, en ignorant totalement ce dont il s'agit, et en bluffant. Le Venezuela a annoncé un jour qu'il avait les plus grosses réserves, et tout le monde a repris, sans se poser de questions, et c'est à l'évidence, contraire à la vérité, ils sont peut-être numéro 10, ils sont certainement pas numéro 1.
Ce sont des déclarations là, très politiques.
C'est de la politique. Et là, Cheikh Khalifa veut les investisseurs et donc dit, ben, j'ai une mine, venez. Voilà. C'est très courant dans le pétrole.
Hein. On constate quand même que de nouveaux gisements pétroliers continuent à être découverts. On l'a dit, les technologies progressent, on peut chercher du pétrole toujours plus loin. On peut quand même dire qu'on est très loin à l'heure actuelle, Pierre-René Bokis, de ce fameux peak oil tant de fois annoncé.
Non, en pétrole classique, comme le disait Mathieu, on découvre aujourd'hui le quart de ce qu'on consomme chaque année. Vous regardez depuis 5 ans, c'est régulier, donc c'est évident qu'on ne renouvelle pas en pétrole classique nos réserves.
Mais en pétrole de schiste?
Alors, le pétrole de schiste, c'est une affaire complètement différente. Il y a un modèle économique qui fonctionne aux US. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura un modèle économique qui puisse fonctionner ailleurs et à quel horizon.
Il y a les États-Unis cumulent beaucoup d'avantages. J'ai parlé des avantages monétaires, le quantitative easing qui a beaucoup favorisé. Il y a une particularité du droit foncier aux États-Unis qui fait que vous êtes propriétaire de votre sous-sol. Ce qui fait que pour beaucoup d'Américains, en particulier dans des zones assez relativement désertiques, le Dakota du Nord ou l'Ouest Texas où a lieu le boom du shale oil, quand vous êtes propriétaire de la terre, ben, vous avez tout intérêt, vous n'avez aucune raison de vous dire que vous n'allez pas laisser les pétroliers forer parce que vous allez gagner beaucoup d'argent avec ça. C'est un peu un cas particulier, c'est même carrément une exception mondiale. Et puis, il y a aussi le fait que l'industrie pétrolière américaine a été longtemps extrêmement agile et développée et que elle reste aujourd'hui très finement maillée. Le cœur du boom du shale oil, c'est le Texas. Ça a été le cœur du pétrole conventionnel.
Donc vous ne voyez pas apparaître des concurrents aux États-Unis sur le pétrole de schiste pour le moment?
Non, il y aura certainement des répliques du shale oil ailleurs dans le monde. On pense à la Russie, à l'Argentine, à la Chine. Pour l'instant, on ne voit pas de signe d'un boom aussi tonitruant, aussi spectaculaire que celui qu'il y a eu aux États-Unis.
Et puis sur cette question des réserves, qui est très politique, comme le disait Pierre-René Bokis, comment ces statistiques sont-elles établies? Parce que ce qu'on constate, c'est que finalement, on a beaucoup de mal à avoir des estimations un petit peu fiables.
Ça, c'est un vaste sujet. D'abord, il y a un truc qu'il faut comprendre que Pierre-René a très bien dit, c'est que les données déclarées par les pays producteurs sont des données politiques. En particulier pour les pays de l'OPEP. Vous n'aurez jamais un audit des réserves de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran. En Russie, si vous sortez le moindre chiffre sur l'état des réserves, vous allez en Sibérie, dans un endroit plutôt inhospitalier, etc., etc. Il n'y a vraiment que sur les compagnies cotées, qui sont en général les compagnies occidentales, qu'on peut avoir une vision claire quand même de l'état des réserves. Mais il y a en général, il y a un hiatus, plus qu'un hiatus, entre ces données politiques affichées en particulier par les pays producteurs et ce que vous racontent les pétrogéologues qui, eux, ont des données physiques beaucoup plus fiables.
Et puis même les compagnies privées ont également tendance à surévaluer leurs réserves. On se souvient de Shell qui avait été obligé de réduire ses réserves de 20% en 2003 après avoir admis les avoir surévaluées.
Ça peut arriver.
Pierre-René Bokis.
C'est un des rares exemples. Parce qu'on a eu l'étrange idée de dire au patron des filiales, ben vous aurez une prime en fonction de l'augmentation de vos réserves. Comme par hasard, ça a généré des barils fictifs, et puis un jour on s'est rendu compte qu'il fallait réviser les chiffres.
Mais ça reste rare.
Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, encore une fois, il faut vraiment insister là-dessus, c'est qu'on n'a jamais aussi peu trouvé de pétrole conventionnel. Ça veut dire que, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait, pour compenser le déclin du pétrole conventionnel, arriver à doubler ou tripler la production de pétrole de schiste et autres pétroles conventionnels, non conventionnels. Pour l'instant, on n'y est pas du tout.
La ressource, elle s'épuise. Il n'y a pas de doute là-dessus. Plus on consomme de pétrole, moins il en reste dans le sous-sol. Par contre, ce qui est important, c'est la notion de réserve. Et la notion de réserve, elle n'est pas une notion géologique, elle est plutôt une notion économique. Et la définition des réserves, c'est les quantités de pétrole qui sont récupérables étant donné les conditions économiques, c'est-à-dire le prix, et les conditions technologiques du moment. Autrement dit, les réserves, elles varient en fonction du prix, parce qu'on va considérer que des ressources de pétrole peuvent être considérées comme, peuvent être validées comme des réserves à partir du moment où elles sont récupérables et qu'elles sont rentables. Il existe dans le bassin d'Île-de-France des ressources probablement très importantes de pétrole. Sauf que ça ne viendrait à l'idée de personne ou quasiment personne de se dire on va les exploiter parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup plus que le prix de revente de ce pétrole.
On entendait Philippe Copinchy, qui est chargé d'enseignement à Sciences Po Paris, dans l'émission de Florian Delorme, Culture Monde. Les réserves de pétrole, Pierre-René Bocquis, dépendent finalement du prix d'extraction de ce pétrole.
Alors, comme le disait Mathieu Ozano, il y a le conventionnel, sur lequel les raisonnements économiques classiques s'appliquent. Plus le prix monte et plus ça augmente, mais pas beaucoup. Curieusement, il y a une faible sensibilité des réserves au niveau de prix. Par contre, sur les non-conventionnels et les shale oil, il y a une extrêmement forte sensibilité et on ne peut plus dire aujourd'hui, comme on le disait dans le temps, que la ressource est limitée et donc les réserves forcément diminuent parce que la ressource est limitée. Cette chose qui paraissait une évidence de bon sens, aujourd'hui est fausse.
Alors expliquez-nous, Mathieu Ozano, peut-être pourquoi ce pétrole de schiste est aussi coûteux à extraire, aussi compliqué à extraire. Alors,
il est de moins en moins coûteux. C'est une très mauvaise nouvelle pour la transition énergétique et le climat. Il se trouve que le shale oil est de moins en moins coûteux à extraire parce que il y a eu une intensification des progrès technologiques, des rendements d'échelle, tout ce que vous voulez, toute la panoplie des améliorations quand on développe une nouvelle activité qui sont en train de porter leurs fruits. Et c'est probablement la raison pour laquelle on voit arriver aujourd'hui les grandes compagnies internationales. Toute la question est de savoir à nouveau, c'est si on est capable, l'industrie pétrolière est capable de poursuivre le boom des pétroles non conventionnels pour compenser, encore une fois, le déclin du pétrole conventionnel. Et là-dessus, c'est pas du tout évident que ça soit possible. D'abord parce qu'il y a quand même des limites physiques, quoi qu'il en soit, mais surtout parce que c'est une activité qui est vorace en capitaux et donc on peut s'attendre à ce que les acteurs qui vont dominer le shale oil rationalisent leur politique d'investissement, et c'est ce qui est en train semble-t-il d'advenir, ce qui fait que on aurait du coup des perspectives de croissance de cette production sans doute moins spectaculaires que dans les années passées. En tout cas, c'est ce qui semble aujourd'hui se dessiner. Donc du coup, se repose néanmoins, c'est pour ça que j'ai une petite divergence avec ce que vient de dire Pierre-René, se pose réellement très sérieusement la question de la pérennité de la production future. Parce que je rappelle quand même d'un mot que le pétrole conventionnel continue à fournir les trois quarts de la production mondiale. Et pour ce pétrole conventionnel, la messe est dite.
Vous parlez des limites physiques, Mathieu Ozano. Est-ce qu'il faut expliquer ce que les États-Unis font eux-mêmes aujourd'hui face à un certain nombre de difficultés sur ce point ?
Il y a un certain nombre d'incertitudes, il y a un certain nombre de goulots d'étranglement, par exemple dans la capacité du système d'oléoduc américain à transporter tout ce pétrole vers les ports, dans la capacité du système ferroviaire américain à transporter le sable, à retraiter l'eau, et puis les coûts de la main-d'œuvre évidemment, qui à mesure que les prix montent, que la production monte, les ingénieurs, les différents opérateurs réclament plus, et donc tout cela fait peser un certain nombre de défis, mais enfin oui, il y a un boom pétrolier qui se poursuit.
Le directeur du centre énergie de l'IFRI, Marc-Antoine Elmazega, qu'on avait reçu dans Entendez-vous l'écho le 21 septembre dernier. Le développement du pétrole de schiste aux États-Unis, Mathieu Ozano, pourrait être entravé par des problèmes d'infrastructure. C'est l'un des aspects qui va entraver son développement.
Oui, provisoirement en tout cas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en particulier au Texas, on a les moyens et on est prêt aujourd'hui à faire tous les investissements d'infrastructure nécessaires pour que ce pétrole arrive sur le marché. Non, les problèmes, à mon sens, sont plus de nature physique.
Dans quel sens ?
C'est difficile aujourd'hui. Enfin, quand on regarde ce qui sort des puits de pétrole, il se trouve que le pétrole de schiste est un pétrole très léger. Et donc, il y a une forte partie de la production qui est en fait presque du gaz naturel, qui est à la frontière entre le gaz naturel et le pétrole, ce qu'on appelle les condensats. Et ça, c'est la nature physique de ce pétrole qui fait que, à nouveau, ça pose un problème pour sa capacité à fournir beaucoup de carburant. Parce que c'est à ça... Les pétroles, les condensats, ça fournit de la matière première pour la pétrochimie. Le problème du pic pétrolier, l'acuité du danger qu'on a avec cette problématique du pic pétrolier, c'est on se transporte à 99% avec du pétrole. Qu'est-ce qui se passe le jour où on n'arrive pas à fournir suffisamment d'essence pour les moteurs? D'où les problématiques d'urgence de passer à des modes de transport plus sobres ou électriques.
Vous partagez ces doutes, Pierre-René Bocquis, la difficulté à transformer ce pétrole de schiste?
Oui, ça devient aujourd'hui un problème. D'abord, l'outil de raffinage américain ne correspond pas du tout à la qualité de ces pétroles, donc ça les oblige à exporter, à importer. C'est un jeu assez compliqué. Deuxièmement, le problème technique qui est très difficile, je pense, à expliquer, c'est qu'en fait, il y a un mauvais indice d'octane. Alors, l'essence, quand vous l'achetez à la pompe, vous achetez un indice d'octane, c'est-à-dire un pouvoir antidétonant qui permet au moteur de fonctionner. Or, ces liquides très légers se présentent mal pour contribuer efficacement, je dirais, à la production d'essence. Ce qui est un paradoxe, parce qu'il y a 20 ans, dans les pétroles conventionnels, la fraction légère était recherchée pour faire des essences. Donc évidemment, là, on rentre dans des choses de spécialistes.
Donc ces pétroles non conventionnels sont plus dirigés vers l'industrie, en particulier, Mathieu Zanneau?
C'est clair qu'il y en a une fraction très importante qui sont plus, encore une fois, des naphtas ou des condensats, des choses qui sont très demandées par la pétrochimie, mais qui ne répondent pas forcément
à la demande mondiale,
à la demande des raffineurs qui font du carburant. Mmh. Ce qui fait que concrètement, aujourd'hui, effectivement, les États-Unis sont obligés d'exporter une partie importante du pétrole qu'ils produisent et d'importer des quantités considérables, toujours considérables, de pétrole brut, 4 millions de barils le jour, 3-4 millions de barils le jour, soit l'équivalent à peu près de la production de la Norvège plus celle du Nigeria. C'est quand même des quantités énormes, d'une part. Et puis, d'autre part, il faut qu'ils importent de l'essence raffinée. Aujourd'hui, manifestement, les derniers indices montrent que les imports d'essence raffinée des États-Unis augmentent, ce qui serait justifié, ce qui s'expliquerait par le fait que, en fait, ce boom du shale, du pétrole de schiste, c'est quand même beaucoup un boom du gaz de schiste. Et on verra peut-être là une limite physique se dessiner nouvelle.
Mathieu Zanneau a parlé de l'Argentine, de la Russie. Vous voyez, Pierre-René Bocquis, des pays investir dans ce pétrole de schiste et peut-être arriver à reproduire en partie ce qu'ont fait les États-Unis.
Je dirais que si on veut faire une liste de ceux qui pourraient faire la course en tête, ce sont les mêmes qu'a cité Mathieu. La Russie, qui possède une très 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 belle roche, la plus étendue au monde, à la surface de la France, depuis le nord du Kazakhstan jusqu'à l'océan Arctique. Et il y a une partie importante de cette formation qui sera un jour productrice massive, aussi bien de gaz de schiste que de pétrole de schiste.
Mais ça va prendre du temps à cause d'un manque d'investissement pour le moment.
Alors d'abord, il y a des sanctions qui font que les sociétés internationales ont été obligés d'arrêter toute idée d'investissement là-dedans. Tous les majors étaient prêts à y aller, et les Russes leur ouvraient les bras, mais là, la politique s'en est mêlée.
Aussi les obstacles politiques.
Mais ça ne fait que remettre les choses. Politique, c'est du court terme.
Oui, ça peut passer très loin. Il faut se rappeler que le patron de la diplomatie américaine, il n'y a pas très longtemps, était le patron d'Exxon. Et dans le cas des relations américaines, Amérique-Russie, c'était tout sauf anodin, puisque Exxon et Rosneft, ou en tout cas l'industrie pétrolière russe, se voyaient mutuellement comme des planches de salut. La Russie, c'est peut-être ça qu'il faut dire aussi, est le premier fournisseur de pétrole de l'Union européenne.
Et de gaz.
Ce qu'on sait peu, il y a encore beaucoup de perspectives sur le gaz. Ce qu'on sait peu, c'est que les pétroliers russes s'inquiètent du déclin de leur production conventionnelle de pétrole qui aujourd'hui fournit plus du quart de ce qu'on importe et ce qu'on consomme en Union européenne.
Donc il y a un espoir des États-Unis de vendre du pétrole conventionnel?
Non, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que nous, Européens, on a toutes les raisons de se préoccuper du pic pétrolier, non pas à l'échelle mondiale, mais simplement parce que on n'a pas de pétrole au sein de l'Union européenne et que on est cerné par des zones conventionnelles qui sont des cas d'école de déclin. Au premier chef, la Norvège et la mer du Nord, c'est un déclin très important. La Norvège a été un producteur, est toujours un producteur important, mais ils sont à 50%, 40% en dessous de la production de leur pic pétrolier qui a eu lieu en 2000. L'Europe est cernée par des zones en déclin. L'Algérie est en déclin. Ça n'est pas sans rapport avec ce qui se passe aujourd'hui politiquement en Algérie, puisque c'est la manne, en fait, qui fait tenir le régime, qui peu ou prou s'étiole. Et la Russie. La Russie est au bord du déclin, nous dit le Kremlin et confirme l'AIE. Mmh. Imaginez un peu ce qui peut se passer en Europe si on a une contrainte sur les approvisionnements. 9 centimes de hausse du baril, la moitié de la France est dans la rue. Imaginez qu'il y ait une contrainte sur les approvisionnements pétroliers russes. C'est tout sauf de la science-fiction puisque le Kremlin et l'Agence internationale d'énergie disent attention, ça peut se passer à partir de 2021.
Pierre-René Bocquis, il faut redouter un peak oil qui serait plus localisé en Europe.
Disons que ce sera un problème à gérer supplémentaire dans les relations internationales, économiques et politiques. Ce que dit Mathieu, j'en suis d'accord. Les gens s'adapteront, mais ça veut dire des crises en plus. On en a déjà quand même un certain...
L'Asie est aujourd'hui, la Chine est aujourd'hui le premier importateur de brut. La Chine est en déclin pétrolier. On le sait peu, la Chine est un producteur pétrolier très important, dont la production conventionnelle est entrée en déclin, et un déclin qui va être géré, comme un peu on a fermé les mines en France, faute de ressources exploitables suffisantes. Si on devait rentrer en concurrence avec les réserves de change chinoises, nous, continent post-industriel complètement couvert de dettes, ça serait compliqué.
Ça peut aussi être vu comme une opportunité à l'heure de la transition énergétique. Pierre-René Bocquis, cette diminution de l'offre, ça force peut-être nos économies à s'adapter et à poser un certain nombre de questions.
Je ne crois pas beaucoup à une adaptation par un déficit de l'offre ou alors assez tardivement. Et je pense qu'on a besoin d'une réduction de la production qui soit en fait d'origine politique, par réduction des consommations. Et là, c'est vraiment les pays, les gros consommateurs, qui doivent avoir une bien meilleure compréhension de ce qu'il faut faire que ce qu'ils n'ont aujourd'hui.
Mais ça passe, je complète ce que dit Pierre-René, parce je sais qu'on est parfaitement en phase là-dessus, ça passe par une compréhension lucide et inquiète de ces enjeux. Il y a le climat, mais comme je viens de le dire, on ne trouve plus de pétrole conventionnel. L'Europe est cernée par des zones de pétrole conventionnel qui sont en déclin. Donc, on a une seconde excellente raison de se dire qu'il est urgent de s'organiser de façon cohérente et audacieuse pour nous passer de pétrole.
Et alors, comme vous le disiez, Pierre-René Bocquis, si l'offre ne faiblit pas ou ne faiblit pas suffisamment vite, est-ce qu'on peut agir du côté de la demande pour accélérer la transition énergétique? On va en parler dans un instant.
L'enfer, l'enfer, cet effet de serre, bon an, mal an, réchauffe un peu plus l'atmosphère. Arrière, petits enfants, chaud, chaud devant, on pourrait tomber la veste, même à la Saint-Sylvestre. Histoire d'arroseur arrosé, qui nous fait de moins en moins rigoler, car dans l'arrosoir, c'est la marée noire, le cadeau empoisonné. Bidon de gasoil, oh bidon de gasoil, diesel ou santon, indice d'octane. Dans les pharmacies, en poule j'ai lu, homéopathie pour bronchiteux et rhumes. Bidon de gasoil, oh bidon de gasoil. Arabie saoudite, compter les pétrodollars, raffiner l'or noir, pétrole, mazout, rouler sur les routes, couler dans les pipelines jusqu'à nos capitales, quadrature du cercle vicieux,
l'histoire du serpent qui se mord la queue. Dans 10 ans à peine, tout le monde se promène avec le masque à oxygène. Bidon de gasoil, bidon de gasoil, diesel ou sans plomb, chauffage central. Sur les vêtements, les fruits, les légumes, tuyaux d'échappement, cheminée qui fume. Plus on en consomme, plus ça nous consume. À croire que les hommes, c'est bien plus con que la lune. Bidon de gasoil.
Bidon de gasoil de Louis Chédid sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur la fin du pétrole en compagnie de Mathieu Ozano et de Pierre-René Bocquis. Alors l'échéance du pic pétrolier, on l'a dit, dépend aussi de la demande. Écoutons sur ce point l'ingénieur Jean Laherrer. Il était l'invité du Grain à Moudre sur France Culture en 2008.
Le pic oil, ce n'est pas simplement le fait que la géologie nous montre que les réserves de pétrole, de gaz et même de charbon sont limitées. Donc il faudra bien un jour qu'il y ait un pic, parce que là, je dirais, dans la nature, la planète est limitée, et tout ce qui monte doit tomber un jour. Hein. Tout ce qui naît meurt. Donc le fait de nier le pic, pour moi, c'est croire à la vie éternelle. Donc il va y avoir un déclin. Le problème, c'est quand. Alors il n'y a pas que la limitation des ressources. Il y a le fait aussi qu'il va y avoir des problèmes sur la demande. Hein, quand est-ce que les prix vont faire diminuer la demande comme il s'est passé en 79, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a eu un pic en 79 et qu'il a fallu, je dirais, 15 ans pour retrouver le niveau de production du pétrole. Et tout ça parce que les gens ont fait des économies d'énergie. Ils croyaient vraiment que là, on allait manquer et que les prix allaient tripler. En définitive, les prix se sont écroulés après le contre-choc de 86.
Et c'est aussi ce que l'histoire de ces 10 dernières années nous apprend, Mathieu Ozano. Quand les prix augmentent fortement, la demande s'écroule.
Au-delà, il y a une espèce de plafond de verre qu'on a frôlé, qu'on a tutoyé en 2008, après dans les années 2010, qui se situe sans doute vers 120 dollars le baril, où c'est de la récession. Il y a une relation compacte entre les évolutions des flambées des cours du baril et les récessions aux États-Unis depuis 50 ans. La flambée précédant en général la récession ou le ralentissement de la croissance, en tout cas. On a une double contrainte là. On a des pétroliers qui ont besoin d'avoir un pétrole cher pour aller chercher du pétrole en Arctique à très grande profondeur ou dans les pétroles conventionnels. Et puis on a une économie qui tanque, qui calanche lorsqu'elle est confrontée à un prix du baril trop cher.
Et en même temps, ce qu'on peut imaginer, c'est que si les prix augmentent, la demande diminuera, et c'est peut-être ce qu'on peut espérer, Pierre-René Bocquis.
Oui, personnellement, j'ai des doutes sur le fait que les prix monteront par déficit d'offre. Je suis de moins en moins convaincu. À l'époque où Jean Laherrer s'est exprimé, c'était vrai, on n'avait que le conventionnel pratiquement. Donc ce qu'il a dit à l'époque était juste. Aujourd'hui, je crois qu'on a une telle incertitude sur le potentiel des shale oil qu'on pourrait très bien avoir des prix qui ne soient pas à la hausse, avec des productions qui pourraient se maintenir beaucoup plus longtemps et peut-être même augmenter un peu qu'on ne le pensait.
En revanche, la production de pétrole pourrait baisser s'il y a une volonté politique de diminuer la consommation.
La clé, si on veut réellement s'attaquer efficacement au problème disons-le, du climat avant tout, on va isoler celui-là, puisqu'il est au cœur de la transition énergétique. Je crois qu'effectivement, c'est une responsabilité des politiques d'adopter, c'est facile à dire, pas si facile à voir, à faire, on l'a vu, des politiques efficaces, intelligentes, face au phénomène. Je crois que c'est possible, mais curieusement, on n'en prend pas le chemin.
Alors, on a vu que le mouvement des Gilets jaunes avait aussi remis ces questions au goût du jour. Et peut-être que ce qui a été reproché à ces taxes sur le pétrole, c'est qu'elles touchaient les personnes qui étaient les moins aisées, Mathieu Ozano.
Oui, il y a ça, d'une part. Mais il y a, pour moi, plus fondamentalement, le fait qu'on n'a pas proposé d'alternative. C'est-à-dire qu'on a considéré que le prix du carbone, la taxe carbone, les taxes carbone étaient une fin en soi, que c'était l'outil, la thérapie, et que ça offrirait aussi la capacité à ouvrir de nouvelles voies. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Ça néglige, raisonner comme ça, ça néglige la place prépondérante de l'énergie, du pétrole en particulier, dans le fonctionnement de nos sociétés, et pas seulement dans l'économie.
Alternatives, vous voulez dire, par exemple, développer des transports publics
exactement,
pour ceux qui utilisent
trop
leur voiture.
Vous êtes en banlieue de Louan-Cuiseau ou du Havre, si vous habitez à 40 bornes et que vous n'avez pas d'autre choix en général que de prendre votre diesel tous les matins. Donc augmenter la taxe carbone sur des gens qui habitent loin, qu'on a envoyé à l'époque où l'énergie était abondante et pas chère, qu'on a envoyé loin dans les champs de patates en disant bah écoutez, il n'y a pas de problème parce que l'énergie restera pas chère, donc construisez votre pavillon ici. Maintenant que la situation est en train de se réverser, on n'a pas les alternatives. Donc ce que dit Pierre-René, à nouveau j'y souscris, on ne s'en sortira pas sans avoir une stratégie cohérente, des plans nationaux, internationaux, où on se contente pas de dire il y a qu'à, français, payez votre taxe carbone et vous allez voir, miraculeusement, une nouvelle société sevrée du pétrole va apparaître. C'est juste extrêmement dangereux de raisonner comme ça.
Et puis l'autre question, c'est est-ce que l'on s'en sortira, pour reprendre votre expression, Mathieu Zanot, si on continue à subventionner les énergies fossiles ?
Si on veut demain rentrer véritablement dans une économie bas carbone, eh bien il faut faire en sorte que cette économie ait un avantage compétitif et que actuellement ça n'est pas le cas. Quand vous avez 650 milliards de dollars qui sont accordés en subvention, en exonération aux énergies fossiles, vous ne pourrez pas rendre les technologies propres accessibles au plus grand nombre et notamment aux pays pauvres. Donner un prix au carbone pour que les investisseurs intègrent que dorénavant, ce prix ne va cesser de monter et faire en sorte que les investissements privés et les investissements publics basculent vers l'économie bas carbone, vers les énergies renouvelables, vers l'efficacité énergétique et donner cet avantage économique pour que chacun puisse accéder à cette nouvelle technologie.
Vous avez sans doute reconnu Nicolas Hulot, qui était alors envoyé spécial de l'Élysée pour la protection de la planète. C'était le 8 octobre 2015 sur France Inter. Et alors, d'après un rapport qui a été publié la semaine dernière par le réseau Action Climat, l'Union européenne consacrerait encore 4 milliards d'euros par an en subventions directes aux énergies fossiles. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord supprimer ces subventions, Mathieu Zanot ?
Ouais, 4 milliards par an, ça me paraît pas être un montant significatif par rapport à l'économie européenne. Je suis pas sûr que cette histoire des subventions, en général, ce sont des aides à des capacités de développement de capacités de production. Il y a un truc qu'il faut pas perdre de vue, c'est que pour l'électricité en particulier, il y a beaucoup de pays en Europe qui savent pas trop faire sans gaz, sans charbon, voire sans fuel, sans pétrole, pour produire de l'électricité. Donc que l'Union européenne, à ce niveau-là, s'il s'agit de 4 milliards, je pense que le sujet n'est pas vraiment là.
Mais est-ce qu'il faut les mettre dans ces énergies-là ? On peut quand même se poser la question.
Oui, mais 4 milliards par rapport aux investissements globaux qui sont dans l'Union européenne sur l'énergie, à nouveau, c'est pas un montant significatif. Ce qui est plus à mon avis pernicieux, c'est pour aller dans le sens de ce qui nous ralentit dans la manière dont on est organisé, et en particulier dans la manière dont est organisée nos politiques fiscales et de l'allocation des ressources publiques, c'est le fait que les taxes sur les carburants constituent une ressource vitale pour tous les États. C'est ça, l'État est un peu jugé parti là-dedans. La TICPE, la taxe sur les carburants en France, c'est quand même 35 milliards par an, c'est la quatrième ressource de l'État.
C'est ce qu'on a reproché à l'État, que ça lui servait finalement à réduire la dette.
Oui, et puis on ne voit pas en face si on met bout à bout. Donc vous avez 35 milliards de recettes cette année sur les taxes sur le carburant. Quand on met bout à bout toutes les mesures qui incitent, toutes les mesures financières d'aide de l'État pour acheter une voiture moins polluante, pour faire des travaux d'efficacité énergétique chez soi, pour développer le vélo, on arrive péniblement à 2 milliards. D'accord, 35 milliards de ressources d'un côté, 2 milliards de l'autre. C'est là où je vous dis qu'on a besoin d'une stratégie nationale cohérente et audacieuse.
Il faudrait flécher davantage les recettes de ces taxes sur les carburants, Pierre-René Bocquise, vers justement les énergies renouvelables.
Je crois qu'avant de flécher, on met énormément d'argent sur les énergies renouvelables dans un pays qui en fait n'en a pas besoin. Il y a des tas d'autres pays qui en ont besoin et chez nous, ça correspond à un besoin du second ordre, hein, puisqu'on avait essentiellement de l'électricité nucléaire et hydraulique, qui est déjà décarbonée. Donc de remplacer une partie par des énergies non carbonées, mais beaucoup plus chères, et qui ont besoin d'un backup, c'est-à-dire d'un secours quand il n'y a pas de vent ou de soleil, qui soit lui carboné. Donc je crois que ça, c'est la première faute contre l'esprit sur le fléchage. Hein, des aides.
Et la seconde ?
La deuxième faute, c'est de faire confiance aux économistes, en étant un, je le dis facilement, qui nous ont démontré qu'il fallait mettre les mêmes niveaux de taxe, je dirais, de coût d'émission du carbone, quelle que soit l'activité. À mon avis, c'est une erreur de raisonnement totale. Par exemple, l'automobile, c'est évident que c'est pas en mettant une taxe carbone de quelques centimes où on fait des dégâts majeurs sur le plan social, sur la population qui a été décrite par Mathieu. Ce qu'il faut mettre, c'est une vignette annuelle, c'est-à-dire que les malus actuels, eh bien, au lieu de durer un an, on les fait durer 5 ans. Et je vous assure que là, vous aurez un effet sur le parc
sur les véhicules
important.
Les plus polluants.
Alors que d'ajouter quelques centimes, ça ne gênera absolument pas les gens qui achètent des 4x4 pour rouler en ville. Donc je crois qu'on a complètement faux dans l'orientation du système d'incitation.
Alors le système d'incitation pourrait être réformé, on l'a compris, mais alors est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité qui serait de taxer le kérosène ? Le gouvernement a annoncé justement qu'il souhaitait mener la bataille au niveau européen, donc créer une taxe européenne sur le kérosène. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Ozano ?
Ça peut être intéressant à condition de mettre les moyens pour développer des alternatives. Pour l'instant, Paris-Berlin, tu peux pas tellement le faire en train. Et en plus, si tu le fais en train, tu le fais largement au gasoil. Donc, c'est pas forcément l'alternative et pas forcément terrible.
Et en même temps, inciter les gens à moins prendre l'avion pour partir en week-end à Rome, c'est pas complètement impensable.
On est d'accord. Mais là, mon point, c'est à nouveau de dire, c'est bien d'utiliser des outils. Il faut savoir pourquoi on s'en sert. Privilégier le train, ça veut dire privilégier le train. Est-ce qu'on affecterait...
Ça veut dire utiliser cet argent pour développer le train, par exemple ?
Non seulement, mais surtout dire, Français, demain, on va devoir, de gré ou de force, passer de ces énergies fossiles. De manière générale, il faut développer de manière systématique et audacieuse toutes les alternatives à la bagnole à essence et à l'avion. Ça veut dire beaucoup de choses qui sont déjà des changements qui sont en gestation dans la société. Mais ça fait maintenant, depuis les Trente Glorieuses, et qui sont liées à l'expansion du pétrole d'ailleurs, qu'on donne en ligne de mire aux citoyens consommateurs, si tu veux devenir quelqu'un, et un gros 4x4, et prends l'avion souvent. Et
on là, voit tu achètes un changement de mentalité social. Qui est en train de s'installer.
Donc c'est un changement total qui demande beaucoup d'audace et beaucoup de lucidité.
Sur cette taxe européenne sur le kérosène, Pierre-René Bocquis.
Honnêtement, j'ai pas d'avis. Il me paraît naturel d'essayer de freiner le taux de croissance de l'avion qui maintenant est utilisé, effectivement, comme vous le disiez, pour les week-ends et autres usages non essentiels.
Là où la voiture est beaucoup utilisée pour aller travailler. Donc c'est
voilà,
pour ça que les usages...
Et qu'effectivement, on a les trains maintenant sur une bonne partie de l'Europe rapide et confortable. Donc il s'agit simplement de freiner la croissance de l'aviation. Il ne s'agit pas de la casser, parce que sinon on a une autre série de problèmes. Mais une taxation, c'est peut-être le meilleur moyen. À quel niveau? Comment on l'homogénéise en Europe? On ne peut pas avoir des taxes différentes selon les aéroports qui sont français, allemands ou espagnols. Il faut que ce soit homogène comme système. Comment on va traiter les gens qui ont fait le plein ailleurs dans des zones où ça part? On ne va pas imposer au monde. Si déjà on se met d'accord entre Européens,
c'est un problème. Sur les vols intérieurs français, ça paraît possible.
Oui,
sur les vols intérieurs européens, ça paraît possible aussi.
Voilà.
Le secteur aérien répond qu'il y a beaucoup d'emplois qui risquent d'en pâtir. Donc c'est toujours le problème aussi.
Oui, mais encore une fois, j'insiste, le problème est un problème systémique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une stratégie cohérente en France et en Europe pour faire qu'on ait une électricité? C'est-à-dire, si vous voulez faire des trains rapides pour prendre le relais pour un Paris-Marseille, je veux dire plus de trains qu'aujourd'hui, et a fortiori pour faire un Paris-Berlin, par exemple, est-ce qu'on a une stratégie cohérente au-delà de savoir s'il faut taxer le kérosène ou pas pour décarboner la production électrique? On voit qu'il y a d'énormes questions et d'énormes incompréhensions sur ce sujet-là.
Alors justement, vous l'avez dit, il faut des alternatives si on veut réussir à sortir du pétrole. Aujourd'hui, on peut se demander si les énergies renouvelables sont des alternatives crédibles, comme vous posiez la question, Pierre-René Bocquis, et notamment parce qu'effectivement, les énergies renouvelables ne produisent que de l'électricité à l'heure actuelle, et on a besoin de carburant, Mathieu Ozano, c'est ça la difficulté?
Non, on peut complètement, il n'y a aucun usage de transport qui ne peut pas être électrifié, et en plus, c'est des rendements qui sont meilleurs.
Mais pour faire face aux besoins actuels.
Simplement, il faut que cette électricité soit disponible en quantité suffisante pour proposer une alternative viable à l'hyperdomination de la bagnole à essence et de l'avion. Et ça veut dire typiquement en France, si on voulait électrifier le parc automobile et le parc de camions à un niveau qui soit compatible avec les objectifs, c'est-à-dire zéro émission de CO2 net à l'horizon 2050, en ordre de grandeur, on sait qu'il faudrait produire 40 à 80 TWh en plus par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'équivalent de 3 à 7 ou 8 EPR en plus. Toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire renouveler, remplacer par du nucléaire ou autre chose les centrales actuelles, et développer la production, à moins qu'on ait une politique de sobriété consistante. Vous voyez, en fait, c'est un problème systémique et qui ne peut pas faire l'économie d'un plan. Or, aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, on a une programmation pluriannuelle de l'énergie, mais c'est pas tout à fait une stratégie ni tout à fait un plan. C'est surtout des listes de courses optionnelles, en fait, et dans lesquelles on ne résout pas des contradictions internes, comme par exemple, si je mets beaucoup d'argent, si j'ai 100 à investir et que je mets 80 sur la production électrique éolienne et solaire qui est pas disponible tout le temps, donc il faut moyen de stockage. Tout ça est pas. On n'a jamais aucune nation dans le monde, et la France serait très bien placée pour le faire, tenter de boucler l'équation.
Justement, je voudrais entendre Pierre-René Boxe là-dessus. Le problème, c'est qu'effectivement, le solaire et l'éolien, d'abord, ce ne sont pas des énergies 100% propres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis, effectivement, ce sont des énergies irrégulières, dépendantes du soleil et du vent, et qu'on a encore du mal à stocker.
Non seulement du mal, c'est une question économique. Si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien que sur la facture d'électricité des Français qui monte et qui vient de faire un saut de plus de 5%, c'est en grande partie les subventions renouvelables. Il y a marqué CSPE, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est ça. Donc, dans un pays qui avait la chance d'avoir choisi une stratégie décarbonée, la détruire, et ce n'est pas un problème politique d'aujourd'hui. Je dirais, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, c'était un autre président, hein, c'était l'avant-avant, c'était M. Sarkozy, eh bien, on a pris des mesures, pour moi, qui sont des non-sens, on a favorisé le gaz au détriment de l'électricité. En clair, c'est une bagarre masquée entre, à l'époque, GDF et EDF, et GDF a gagné. Et c'était absurde pour l'intérêt national français. Rebelote, quand on a le président d'après, on dit on va devenir les champions des énergies marines. Toute personne un peu compétente qui a enseigné les énergies marines savait que ça n'avait aucun sens. Donc on a mis des subventions pour rien.
Des raisons techniques, de limites techniques.
Des tas de limites technico-économiques. Donc on a fait des hydroliennes, un ou deux prototypes. Et puis voilà.
Et notamment des hydroliennes offshore, mais effectivement, oui, on attend.
Oui, non, elles sont par définition pratiquement offshore.
Hein. Ouais, on attend de voir.
Dans l'Odé, il y en a.
C'est zéro comme énergie.
Mais on attend de voir si effectivement ces énergies pourraient être rentables. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Ozanos?
C'est toujours une question d'échelle, en fait. C'est une question d'échelle. C'est-à-dire que techniquement, on sait tout faire. On sait faire des hydroliennes, on sait faire des micro-organismes OGM qui défèquent des hydrocarbures. On sait tout faire. La question, c'est de savoir, aujourd'hui, on consomme 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde, c'est des énergies fossiles. Est-ce qu'on est capable de produire, de fournir des alternatives à cette échelle, modulo la sobriété qu'on peut mettre dans le système en général. Et quand on met bout à bout, c'est difficile d'imaginer arriver à faire boucler l'équation avec de l'électricité intermittente.
On a essayé avec les biocarburants, par exemple, même si des études ont montré que même si l'ensemble des terres agricoles leur étaient dévolues, ce serait 40% de nos voitures seulement qui seraient alimentées.
Alors on peut imaginer une nouvelle génération mais c'est un cas où effectivement la première génération des agrocarburants, c'est un cas d'école des limites d'échelle qu'on a pour prendre le relais d'une énergie que l'humanité a choisie sans la choisir, parce que simplement c'était la meilleure qu'elle avait à sa disponibilité. Extrêmement dense, cumulant la fonction de stock et la fonction de flux. Enfin, je veux dire, toutes les alternatives au pétrole seront plus chères, plus compliquées. Il faut juste qu'on arrive à trouver la moins compliquée et la moins chère, et d'ajuster avec une sobriété de la société en général, une sobriété qui est probablement le défi le plus important, parce qu'on ne s'est pas habitué à ça.
Toute la question étant, en effet, Pierre-René Bocquis, le prix qu'on est prêt à payer pour passer à un autre type d'énergie.
C'est d'abord d'être logique dans les mesures qu'on prend. Si on prend la dernière loi sur la transition énergétique, c'est pire que le Grenelle de l'environnement. C'est un pavé avec plein de contradictions. Ça montre une absence totale de vision stratégique. Prenons, quelles sont les trois choses majeures? La chose majeure, c'est de faire reculer à l'échelle mondiale le plus vite possible le charbon. Et temporairement, le remplacement va se faire essentiellement par du gaz. Et dans une moindre mesure par du nucléaire et des renouvelables. Il y a des pays où les renouvelables sont parfaitement justifiées. Hein,
Et justement, est-ce qu'on ne peut pas tirer des enseignements de la fin du charbon pour amorcer
cette fin du pétrole ? On n'est pas du tout dans la fin du charbon.
En France, on l'est.
Non, mais on ne pèse rien dans ce problème. C'est là qu'il faut d'abord une vision globale pour qu'on favorise...
C'est sûr que le charbon est un problème gigantesque en Chine aujourd'hui.
En Inde, aux États-Unis, enfin, dans tout ce qui compte sur le plan économique. Ce n'est pas la France qui est le sujet du changement climatique. Hein. On a les plus basses émissions par rapport à la taille de notre économie, par habitant, par milliers de dollars de PNB. Enfin, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est de concevoir. Eh bien, on s'occupe toujours chacun de son petit côté, de son petit intérêt. Et je vais être cruel, mais suite à ce que j'ai expliqué sur le Grenelle de l'environnement, où GDF a obtenu une certaine victoire, eh bien, on voit aujourd'hui le numéro 2 de la société qui a succédé à GDF, je ne vais pas la nommer, dire que ce qu'il faut absolument développer, c'est le biogaz et l'éolien offshore. C'est à pleurer, si vous voulez.
Non, mais il y a la question économique, Pierre-René Bocquis, mais aussi la question éthique. Vous parlez du nucléaire comme une solution intéressante. On peut aussi envisager que la question de la transmission des déchets nucléaires aux générations futures constitue un problème.
Oui, on considère ça d'un point de vue français. Aujourd'hui, les Chinois ont 30 réacteurs en construction, les Russes en ont une dizaine, et c'est eux qui prennent le marché mondial qui est en train de se développer. Il y a 25 pays qui n'ont pas de nucléaire, qui vont passer au nucléaire. Donc, si vous voulez, les Français raisonnent comme s'ils étaient le cœur du monde, ne voient pas ce qui se passe ailleurs, et laissent partir leur industrie nucléaire qui a été un moment leader et qui disparaît.
La géothermie, on pourrait probablement en faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement pour la chaleur basse température, tout ce qui est chauffage. Quand vous voulez en faire de l'électricité, ça commence à poser des tas de problèmes, pour des raisons techniques sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais en gros, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. Et puis après, le reste, ça devient des queues de cerises. Et là, vous avez un petit exercice mathématique qui est très simple à faire. Aujourd'hui, la consommation d'énergie de l'humanité croît de 2% par an. Si vous faites croître la production d'énergie éolienne de 10% par an sur 50 ans, oui. Ça commence à devenir beaucoup parce qu'il n'y a que le pétrole à ses débuts qui a eu des taux de croissance moyens sur 50 ans qui étaient identiques. Toutes les autres énergies ont cru moins vite. Hein. Donc sur 50 ans, eh bien, dans 50 ans, vous êtes encore à moins de 1% en provenance de l'éolien dans le total mondial. Donc le problème, il n'est pas dans le taux de croissance de l'éolien avant tout, il est dans la consommation d'énergie mondiale avant tout. Donc le problème principal, ce n'est pas l'éolien, c'est la consommation globale d'énergie. Et donc le problème principal, il est économique, il n'est pas technique.
On entendait l'ingénieur et enseignant Amine Paritech, Jean-Marc Jancovici sur France Culture. C'était en 2006. La seule solution, si l'on en croit Jean-Marc Jancovici et Mathieu Zano, c'est donc de diminuer notre consommation d'énergie.
En tout cas, c'est une voie royale. L'organisation d'une sobriété systémique dans nos modes de transport, de construction, d'industrie, c'est vraiment une clé qui fonctionne pour tous les problèmes. Après, il faut pas rester comme un lapin dans les phares à se dire « Ah, nucléaire, ENR, nucléaire, ENR ». Non, il faut qu'on ait une conversation adulte, lucide, pour se dire « Il y a le climat, nous, en Europe, on n'a pas de pétrole, on a peu de temps pour agir, on a des capacités d'investissement limitées, on peut pas se gourer ».
Et ça implique concrètement, Pierre-René Bocquis, si jamais on estime qu'il faut accélérer cette sobriété énergétique, ça implique simplement d'accepter de perdre une partie de notre confort ?
Pas nécessairement.
Je pense que la notion de confort, elle est beaucoup très psychologique.
Non, et puis...
Je pense que de passer d'un 4x4 qui émet 150 à 200 grammes de CO2 à une voiture qui émet deux fois moins...
Même un
on voit tout de même la difficulté qu'il y a à accélérer la sobriété énergétique.
Oui, mais je pense que la société est quasiment... Enfin, j'espère que la société est quasiment mûre pour ça. On a beaucoup, pendant la crise des Gilets jaunes, opposé les fins du mois à la fin du monde au Shift Project. On a fait un travail sur la mobilité en grande périphérie urbaine et on s'est aperçu que, moyennant une politique d'investissement dans toutes les alternatives à la bagnole individuelle, tu peux... permettre aux gens de continuer à se déplacer correctement, normalement, avec des temps de distance, des temps de parcours identiques, je dis bien en grande périphérie urbaine, avec un budget de transport qui se réduit. Donc on continue à se déplacer, on dépense moins d'argent et on fait du bien au climat.
Et donc pas besoin de choisir entre la fin du mois et la fin du monde. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une étude scientifique qui révèle la présence de plastique dans l'eau que nous buvons.
Absolument, nous savons ainsi que l'eau embouteillée est largement contaminée par des microparticules de plastique allant de la largeur d'un cheveu à la taille d'un globule rouge. Si leur quantité varie de 30 microbilles par litre de San Pellegrino par exemple à plus de 900 dans certaines bouteilles de Nestlé, ce sont en tout 93% des contenants qui testent positivement à la recherche de plastique dans leurs eaux cristallines. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas que les bouteilles en plastique qui contiennent et diffusent ces microparticules. Une étude publiée en janvier dernier par une équipe de chercheurs de l'Illinois Sustainable Technology Center nous apprend que l'on retrouve désormais ces présences de plastique jusque dans l'eau de notre robinet. Cette étude menée sur une série de 17 échantillons d'eau prélevés dans la région de St. Louis, Missouri, a ainsi démontré que ces résidus de plastique avaient colonisé la quasi-totalité des nappes souterraines de la région.
Elle confirme d'ailleurs les résultats d'une autre étude de 2017 menée dans différents pays par les universités de New York et du Minnesota et qui concluait que 83% des échantillons contenaient des particules de plastique.
Exactement, il faut dire que si le processus naturel d'infiltration de l'eau permet normalement de filtrer ces impuretés, les ressources aquatiques sont devenues si polluées que la nature n'y suffit plus et l'on retrouve dans l'eau des pesticides, du nitrate et désormais du plastique. La raison est d'ailleurs assez simple, les nappes phréatiques sont contaminées par les eaux que nous utilisons au quotidien et qui sont rejetées dans la nature sans avoir pu être totalement nettoyées. Ainsi comme le relève Tim O'Line, l'un des auteurs du rapport, il faut imaginer les milliers de fibres de polyester qui se retrouvent dans notre fosse septique après avoir fait une simple lessive.
Cette eau s'infiltre ensuite dans les nappes phréatiques et pollue durablement nos réserves d'eau souterraine.
Oui, c'est bien le problème de ces matières polymères, même fragmentées en milliers de microbilles, elles peuvent survivre et polluer jusqu'à des milliers d'années. Tim O'Line rappelle ainsi que même si nous arrêtions du jour au lendemain de produire du plastique, nous aurions tout de même à affronter ce problème pendant des années, car le plastique ne disparaît jamais tout à fait. Comme le relève le chercheur, il est d'ailleurs totalement ahurissant, pour ne pas dire tout à fait criminel, d'avoir produit en si grande quantité des produits à usage unique dans des matériaux conçus pour durer éternellement. On estime ainsi que l'homme a produit depuis les années 40 plus de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques, déchets que l'on retrouve pour 80% d'entre eux dans les décharges ou directement dans la nature. Autant de plastique qui se désagrège lentement, se décomposant en milliards de microbilles que l'on retrouve ensuite dans les animaux que nous mangeons et dans l'eau que nous buvons. En considérant qu'une personne boit entre 2 et 3 litres d'eau par jour, elle pourrait avoir ingéré entre 3 et 4 000 microparticules de plastique chaque année.
Il est néanmoins difficile d'évaluer l'impact exact de ces particules sur notre santé.
Effectivement, si les effets de ces substances sont encore incertains, une étude a néanmoins montré qu'elle pouvait être responsable de la diffusion de substances chimiques et de bactéries dans notre organisme. Un autre rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation explique que ces micro-débris peuvent s'infiltrer dans le sang du rat pour ensuite coloniser son rein et son foie. Ce que nous disent surtout ces études, c'est qu'après avoir bâti une civilisation entièrement fondée sur la croissance et les hydrocarbures, ce n'est pas tant l'après pétrole qui devrait nous inquiéter que les conséquences de notre activité, un régime des infimes menaces et des cours d'eau pollués qui nous condamnent à n'être jamais une société du pétrole libérée.
On se quitte avec le groupe Firecrackers Out of Gasoline. Merci beaucoup Mathieu Zano et Pierre-René Bocchis de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, on se demandera si l'économie circulaire peut être une réponse à l'épuisement des ressources. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. It was all that I was crazy for.